Alors, une œuvre poétique ensuite abondante et permanente.
Une œuvre poétique, oui, ou abondante, je ne sais pas trop ce que veut dire abondante. J'ai eu la chance là aussi d'entrer en amitié, je crois que c'est bien l'expression, avec Rougerie, voilà. Lequel Rougerie donc a une vertu, c'est qu'il est impitoyable. Quand c'est mauvais, ça peut être le copain. Quand c'est mauvais. Et on ne lui fera jamais publier un copain qui n'est pas. Bon. Et c'est une chancellerie. C'est lui qui m'a publié donc mon premier poème. Et ensuite, il m'en a publié beaucoup de recueils. Et après, alors la chance que j'ai eue, qui m'a permis de sauver un peu le théâtre, c'est qu'il m'a publié aussi mon théâtre, en sachant bien qu'il n'y gagnerait pas un rond. Ce qui veut dire qu'il en a perdu beaucoup dans l'histoire. Mais enfin, il m'a publié quand même une quinzaine de pièces, pratiquement toutes jouées quand même, hein, ce qui donc m'a permis de sauter ce grand vide qui était entre mon village et puis dans d'autres troupes. Quoi. Alors ça a été joué quand même, le théâtre a été traduit en allemand, a été joué en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, je crois, etc. etc. Mais c'était pas mon job à succès. C'était mon job, oui, moi je l'aurais pas fait, hein. Mais c'était pas mon job à succès. J'étais très très mal placé pour faire du théâtre et actuellement, j'ai continué à en faire sous un hasard aussi extraordinaire qui est très très amusant d'ailleurs. Si j'ai le temps, je te le raconte. À savoir qu'un jour, dans mon cabinet de consultation, j'ai vu arriver quatre moutards, très très embarrassés, sans parents, avec une boîte en carton. Et je leur ai dit, ce que vous voulez. Et ils m'ont dit, on fait des marionnettes. Ah, je lui ai dit, très bien. Et ils m'ont sorti de cette boîte en carton des marionnettes ignobles. C'est à savoir ces marionnettes en caoutchouc qu'on trouve dans tous les supermarchés ou autres. Et je lui ai dit, c'est très bien, et qu'est-ce que vous voulez? Mais ils m'ont dit, il paraît que tu sais écrire du théâtre. Je lui ai dit, oui, un petit peu. Alors ils m'ont dit, tu vas nous écrire des pièces de théâtre pour nos marionnettes. Bon, c'était communautif, il n'y a rien à faire, tu ne peux pas dire non. C'est absolument impossible. Alors j'ai écrit donc des pièces pour leurs marionnettes, lesquelles pièces ils les ont toutes refusées, en me disant que ce n'était pas ça, qu'ils ne voulaient pas ça, qu'ils voulaient autre chose. Et j'ai recommencé, alors là, j'ai eu un petit satisfait. Et puis ils sont revenus en me disant, bon, maintenant, il faut faire les marionnettes. Ah, j'ai dit, moi, je suis pas du tout... Bon, ils ont trouvé quelqu'un qui était un plasticien pour faire les marionnettes. Ils ont trouvé quelqu'un pour faire un castellet qui était une merveille. Et à la fin, pour mettre la cerise sous le gâteau, ils m'ont dit, maintenant, tu fais la musique. Ah, j'ai dit, non. Je me suis laissé avoir une fois, deux fois. Ah, mais ça fait rien. Ça fait rien parce que dans le coin, il y a un gars qui vient d'avoir le prix de musique du Festival de cinéma à Cannes. Et j'ai dit, c'est très bien. Et bien, ils m'ont dit, t'as qu'à y aller. Et bien, j'y suis allé, coincé, et je suis tombé sur Artuis, qui habite pas loin d'ici, auquel j'ai sorti le baratin qui m'avait sorti, est-ce que vous ne pourriez pas, etc., etc. Le gars coincé, de la même façon, nous a fait la musique, c'est-à-dire ces grosses sont tournées donc dans les villages, avec un auteur de théâtre, un plasticien, un gars qui leur a fait une musique de scène, etc., etc. Et toutes ces pièces de marionnettes ont été publiées en théâtre d'enfants. Et chez Magnard, là, il y en a 6, ont été publiées. Ça se joue beaucoup, c'est vrai, hein, ça se joue beaucoup. Et l'une des pièces a été livrée à un opéra qui a été monté et qui était correct, quoi, ça allait bien. Bon, c'est encore le coup de peau, ça, ces gosses ne seraient pas venus, jamais j'aurais eu ça.
Alors, pour les jeunes, tu as également un travail très, très important.
Oui, beaucoup. Pas pour les tout-petits, hein. Les tout-petits, ça, je ne dirais pas, ça ne m'intéresse pas, mais en fait, ce n'est pas mon job. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Ouais. Ouais. Alors, c'est essentiellement soit les adolescents, soit les pré-ados. Hein. Pré-ados, c'est-à-dire 11, 12, 13 ans, etc. Soit les adolescents. Bon, je considère que les adolescents lisent la même chose que les adultes, pratiquement. Sauf qu'ils sont quelquefois encore plus durs. parce que l'adolescent n'accepte pas de s'ennuyer en lisant, tandis que l'adulte, il fait semblant de ne pas s'ennuyer en lisant parce qu'il veut absolument faire montrer qu'il a compris. Et j'écris donc chez Gallimard et au Seuil également, donc des textes de romans qui sont des textes de romans pour adolescents qui, en réalité, dont la fierté était quand il est passé à leurs parents et que ça marchait aussi bien pour les parents que pour les ados. Mon problème avec les adolescents a été, si je peux continuer là, donc sur ce truc précis tant que je le tiens, le problème avec les adolescents est un problème de génération. Bon, c'est banal, hein. Bon, je ne suis pas très jeune, j'ai eu une vie d'adolescent assez agitée qui me rapproche d'eux quand même, mais il y avait deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire du roman miroir, c'est-à-dire donc de leur mettre dans le roman une glace, littéralement, en leur disant « vous êtes ça devant la toxicomanie, vous êtes ça devant la sexualité, vous êtes ça devant l'argent, vous êtes ceci, vous êtes cela ». Et ça ne dit absolument rien, parce que ça ne mène pas à la littérature, ça mène donc à des analyses sociologiques, etc., etc. Bon. Et je me suis dit, j'ai pris une autre direction en me disant, bon, au lieu de faire ces romans miroirs, je vais leur présenter un miroir vide en quelque sorte, à savoir que je vais leur présenter des situations qu'ils connaissent, mais sous un jour qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire donc transposer les romans dans la fable, et dans la métaphore, dans la poésie, mais pas la poésie poétissime, parce que ça, ils nous l'auraient balancé par la fenêtre tout de suite. Et donc, leur laisser voir la traduction. Soit ils prennent plaisir à l'aventure, tout ce qu'on veut, bon, et ils en restent là. Soit ils vont plus loin, ils disent, tiens, mais on est comme ça. Et à ce moment-là, à mon avis, ils vont beaucoup plus loin qu'avec un roman miroir, parce qu'ils sont obligés de réfléchir, obligés de transposer, obligés d'être dans des situations où, qui n'ont pas connu, qui ne sont pas évidentes.
Moi, l'impression que j'ai eue de la lecture de ces romans, et le dernier d'ailleurs, on en a parlé à Radio Occitanie il y a peu de temps, sur le format, c'est d'être vraiment en présence de véritables romans initiatiques.
Oui.
Il y a. C'est tout l'enseignement en définitive, on dit, voilà, quelqu'un qui veut, en définitive, cache une forme de connaissance à avoir, d'enseignement dans ses récits.
Oui.
Donc. Comme tu disais, et tu le confirmes en définitive, cette impression, c'est qu'il y a peut-être une double lecture. C'est vrai que sur les aventures, ceci et cela, derrière ça, il y a toute une réponse peut-être à des questions, et c'est la définition même de l'initiation. C'est-à-dire qu'on donne les moyens à celui qui saura le voir et s'en servir pour peut-être changer un petit peu sa vision du monde.
Oui.
C'est un peu ça que j'ai ressenti à ces romans, ce qui fait que ces romans, pour parler d'une façon très, 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 très franche, je me suis dit, mais pourquoi diable cantonne-t-il ces romans aux adolescents? C'est-à-dire que j'ai pensé que tu pouvais écrire la même chose, mais d'une façon vraiment peut-être un peu plus débridée ou que sais-je, mais qui ne serait pas fatalement publiée dans une collection jeunesse.
Oui. Bon, c'est une question que je me suis posée, bien entendu, ça va de soi. C'est pas du tout volontaire. Si j'écris, je n'écris pas pour l'adolescence, je n'écris pas pour les enfants. J'écris en direction d'eux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que je n'écris pas sur commande, hein, je n'écris pas ce qui est du goût du jour, enfin, je viens de le dire tout à l'heure, et j'écris donc en direction d'eux. Alors, ce qui change tout, si j'écris en direction des adolescents, je les dépasse automatiquement. C'est-à-dire que j'écris en réalité des bouquins qui sont adolescents, dans le sens donc que les problèmes sont relativement simples, hein, et sont souvent des problèmes liés avec des aventures, avec des situations extrêmement bizarres ou fâcheuses ou dramatiques, etc., etc. Et qui me permettent ensuite, alors là, en deuxième état, d'atteindre des adultes. Et ça vient de ça, je crois, de deux choses. La première, c'est que je ne suis pas un intellectuel. C'est pas ni en défaut d'une qualité, hein, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, c'est-à-dire que donc je n'aime pas manipuler les idées en elles-mêmes. C'est pas que je n'en ai pas, mais je me sens pas capable de philosopher sur la vie, etc., etc. Par contre, en poète, oui.
Tout à fait.
Ouais, oui. Oui. La deuxième raison, alors là, elle est vachement terre à terre, c'est que c'est beaucoup plus facile de publier des romans en direction des adolescents qu'actuellement. Le monde des publications adultes est quelque chose qui devient vraiment, vraiment très, très difficile. Pas dit, non, pas difficile d'écrire. C'est très difficile de trouver l'éditeur parce que il y a une censure qui est considérable, qui n'est pas du tout la censure des idées. On peut écrire des galipettes tant qu'on veut, qu'autrefois on n'aurait jamais osé faire. C'est pas une censure des idées, c'est une censure du succès en succès. C'est-à-dire actuellement, un éditeur va publier un bouquin, pas uniquement donc pour ce qu'il y a dedans, mais pour ce que prévoit.
C'est la loi du marché.
Voilà,
c'est la loi du marché qui.
Alors dans le temps, il y a pas quand même très très longtemps, il y avait un équilibre. La maison d'édition qui était l'équilibre normal. C'est-à-dire il y a des succès, hein, et il y a des essais. Bon. Et les succès permettaient de prendre des risques. Et actuellement, la deuxième partie a disparu. C'est-à-dire il y a des succès, mais qui peuvent devenir absolument gigantesques, énormes, et qui sont des affaires manifestement d'argent. Ils sont disproportionnés avec les bouquins, même si les bouquins sont de qualité. Hein. Bon, c'est le truc typique, c'est Harry Potter. Mais c'est pas un mauvais bouquin, Harry Potter, du tout. C'est un livre qui se lit, qui est agréable, etc. Mais il ne mérite pas 1 million de lecteurs. Et c'est la même chose pour Charles de Poules, c'était la même chose pour Da Vinci, etc. etc. quoi. Et ça devient inquiétant parce que le public, donc, je ne dis pas qu'il ne prend pas plaisir, que les enfants ne prennent pas plaisir à Harry Potter, mais ils ne se rendent pas compte que des tirages pareils tuent la littérature. Parce que tout ce qui est vendu comme Harry Potter ne sera pas vendu pas comme autre bouquin qui aurait la même qualité ou une qualité supérieure. Et les auteurs, ben, s'ils n'ont pas de quoi compter, il faut que le client fasse autre chose. Et puis voilà.
Malheureusement, je crois qu'on trouve ça un peu dans tous les domaines artistiques. Hein.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai.
Un des travers de notre société.
Oui, on fabrique actuellement donc des peintres qui sont valables pour 6 mois. Oui. C'est-à-dire donc artificiellement monter leur cote et au bout de 6 mois on laisse tomber et puis on en prend un autre et ainsi de suite. Quoi.
Même la variété de qualité, les chanteurs à texte qui viennent vraiment maintenant se réduisent comme une peau de chagrin.
Oui.
Et un système de diffusion qui permet très difficilement à la nouvelle création de pouvoir s'intégrer quelque part.
Ah ouais. Ah oui.
Avec un réseau parallèle qui existe, mais qui est vraiment pas important.
Oui.
Et c'est un peu ce que l'on ressent également en littérature et en poésie en particulier.
Ça, c'est certain. Avec un bémol, hein, quand même. Oui. Avec un bémol qui est lié à quelque chose qui peut paraître sentimental, c'est que la littérature, on a beau faire, elle est incroyable.
Oui, je suis d'accord.
Elle est incroyable. Vous pouvez toujours donc avoir un best-seller à 1 million, tout ce que vous voudrez, contrôler la diffusion qui est actuellement un des périls. Bon, il y a toujours qui passe à travers le filet. Et puis un beau jour, les gens qui sont directeurs de collection, ben, ils vont sortir un bouquin qui va se vendre à 300 000 exemplaires alors qu'il était prévu par les financiers qu'ils ne vendraient pas du tout. Et puis le gars qui dirige la collection, ben, il est invirable après. Et puis il fait ce qu'il veut.